Vous êtes bien sûr RFI, midi et demi en temps universel, il est 13h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Une mission de la CDAO a quitté précipitamment la Guinée-Bissau pour échapper à une expulsion. Elle était sur place depuis quelques jours pour aider à résoudre le conflit sur la date de la prochaine présidentielle. L'ancien doyen d'une faculté de médecine du Rwanda, inculpé à Paris, il est soupçonné d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994 dans la préfecture de Boutaré, dans le sud du pays. Il y a 4 ans, des pêcheurs du Sénégal confrontés à des éruptions de boutons et des lésions cutanées. Les scientifiques ont fini par découvrir l'origine de ces symptômes, une toxine produite par une microalgue. Et puis la Cour pénale internationale est prête à soutenir la création d'un tribunal spécial pour juger tous les crimes au Congo depuis 30 ans. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière à Kinshasa Karim Khan, le procureur de la CPI. Le cinéaste belge Thierry Michel, auteur du film « L'Empire du silence » consacré à l'impunité en RDC, est notre invité. Une mission de la CDAO en Guinée-Bissau pour apaiser les tensions entre le pouvoir et l'opposition sur la date de la fin du mandat présidentiel a tourné court. Christina Okello, la délégation a dû quitter précipitamment le pays sous la menace d'une expulsion.
Oui Nicolas, c'est bien le président Umaro Sissoko Embalo qui a menacé d'expulser la mission de la CDAO. Pour éviter cette humiliation, la délégation a préféré partir d'elle-même, quittant Bissau à l'aube samedi matin. Et c'est curieux car le chef de l'État avait pourtant rencontré les médiateurs lundi dernier au début de leur mission, mais il leur reproche d'avoir outrepassé leur mandat en dialoguant avec certains leaders de l'opposition. C'est en tout cas ce que rapportent plusieurs sources, dont l'ex-premier ministre Aristide Gomez.
Quelle était la mission principale de cette délégation de la CDAO au départ?
Dans son communiqué, Nicolas, le CDAO affirme avoir pris note des préoccupations des actes politiques, saluant leur engagement en faveur d'un consensus sur une feuille de route électorale. Mais au lieu de s'en tenir à ce rôle d'observation, elle a rencontré l'opposition, notamment les coalitions Paita-Arinka et API. Kabaskar Indi, c'est ce qui déplaît au président bissau-guinéen. Et ce n'est pas tout, la mission a aussi repris certaines revendications de l'opposition, notamment le rétablissement de l'Assemblée nationale d'ici le 31 mars et l'organisation des élections en juin. Un calendrier bien différent de la date du 30 novembre fixée par le chef de l'État. Une déclaration finale de la CDAO est attendue prochainement, mais la tension reste vive à Bissau. L'opposition ne reconnaît plus l'autorité de Umaro Sissoko Embalo, dont elle considère le mandat expiré depuis le 27 février.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, des miliciens pro-gouvernementaux Wazalendo ont fait irruption tôt ce matin dans les faubourgs de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, passée depuis mi-février sous le contrôle du groupe armé M23. Ce matin, au moins une dizaine de Wazalendo, armes à la main, sont apparus à proximité du camp TV dans la commune de Kadutu. Des tirs ont été entendus par plusieurs habitants. Les Wazalendo se sont ensuite retirés rapidement. Aucun bilan n'est disponible à l'heure actuelle. En France, un ancien doyen de la faculté de médecine de Boutaré au Rwanda, inculpé vendredi à Paris pour génocide, crime contre l'humanité et entente en vue de la commission de ces crimes. Cet homme que l'on présente comme Alphonse K. a 74 ans. Il vit en France depuis 25 ans, soupçonné d'avoir participé aux tueries du printemps 94 dans la préfecture de Boutaré, dans le sud du Rwanda. Il a été placé sous contrôle judiciaire, Pierre Firsion.
Si une enquête a été ouverte, c'est parce que le nom d'Alphonse K est apparu lors des procès à Paris d'Eugène Roy-Mouchio, médecin enseignant à l'université de Boutaré, condamné en octobre dernier à 27 ans de réclusion criminelle, et de Sosthène Munyemana, un autre ancien médecin rwandais qui avait écopé lui en 2023 de 24 ans de prison. Cet ancien doyen de la faculté de médecine de Boutaré est soupçonné d'avoir appelé à s'en prendre à la minorité Tutsi lors d'une réunion organisée le 14 mai 1994 à Boutaré en présence de Jean Kambanda, le premier ministre du gouvernement intérimaire de l'époque. Ce jour-là, il aurait tenu un discours tout aussi génocidaire que celui de Kambanda avait écrit la cour d'assises de Paris dans la motivation du verdict ayant condamné Sosthène Munyemana. Il existerait, selon l'AFP, une retranscription de ses propos. L'homme est également accusé d'avoir, au sein de l'hôpital de Boutaré, donné des instructions visant à l'extermination ou la déportation de patients, réfugiés ou membres du personnel Tutsi. Des accusations rejetées en bloc par son avocat, il n'a jamais eu cette attitude et il n'a jamais tenu les propos qui lui sont imputés, assure Marcel Ceccaldi, qui rappelle que son client n'a pas été poursuivi par le tribunal international pour le Rwanda.
En Tunisie, 40 personnalités emprisonnées depuis 2 ans doivent être jugées à partir de demain pour un complot présumé contre la sûreté de l'État. Des hommes politiques de premier plan, des avocats et des figures médiatiques sont poursuivis dans cette affaire. Les familles et les avocats craignent qu'une parodie de justice destinée à étouffer toute voix critique, le pouvoir tunisien, lui, s'en défend, Lilia Blaise.
Depuis une semaine, le procès du complot contre la sûreté de l'État fait l'objet d'une guerre médiatique qui reflète bien la tension autour de cette affaire. Après les interventions dans les médias et une campagne sur les réseaux sociaux des avocats des accusés qui dénoncent un dossier vide, les défenseurs autoproclamés de l'exécutif ont dégainé. Vendredi soir, Riad Jrad, un chroniqueur controversé, est intervenu sur le plateau d'une télévision privée suite à la diffusion d'un grand reportage sur le présumé complot. Il a étalé les détails de l'affaire avec des documents dont la crédibilité reste à vérifier. La diffusion de l'émission a déclenché une vague de réactions au sein de l'opposition qui dénonce un parti pris en faveur du pouvoir et une propagande pour dénigrer les prisonniers dans cette affaire. Pour les familles des accusés et les avocats qui attendent avec impatience cette première audience, cette situation renforce la nécessité de rendre public ce procès. Pour le moment, la justice a annoncé que le procès se déroulerait à distance, c'est-à-dire que les détenus ne seront pas physiquement présents au tribunal et comparaîtront par visioconférence pour des raisons de sécurité. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Le Soudan, ravagé depuis 2 ans par une guerre meurtrière, touché de plein fouet par la décision des États-Unis de suspendre l'aide humanitaire, des projets financés par l'USAID sont déjà impactés, Ouda Ibrahim.
L'impact de la récente décision américaine de suspendre les aides humanitaires ou de développement dédiées aux pays les plus pauvres se fait déjà sentir au Soudan. 30 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, souffrent selon l'ONU de la faim et ont besoin d'une assistance d'urgence. Le secteur des cuisines communautaires, lancé par des volontaires parmi les habitants au début de la guerre en 2023, est un exemple parlant de ce lourd impact. Ces cuisines s'appuyaient à l'origine sur des dons de la société locale et de la diaspora. Plus tard, elles ont commencé à bénéficier des aides allouées par les agences internationales qui peinent à atteindre les zones des conflits. Leur but, aider les déplacés de la guerre et ceux qui sont dans l'extrême nécessité. Ces cuisines communautaires essuient aujourd'hui de grosses difficultés, ce qui a, selon les volontaires, impliqué la fermeture de 1 000 de ces cuisines et donc 2 millions de personnes qui se trouvent dans une urgence alimentaire absolue et qui bénéficiaient de ces aides n'y ont plus accès. Selon certaines estimations, les aides américaines finançaient entre 70 et 80% de la somme nécessaire pour faire fonctionner ces cuisines, mais aujourd'hui, les canaux habituels pour toucher l'argent en liquide ne sont plus disponibles.
La traditionnelle Gay Pride du Cap ce week-end en Afrique du Sud. Des centaines de personnes ont rendu hommage à l'occasion à l'imam Mohsin Hendrix. Voilà 15 jours que ce religieux premier imam a assumé ouvertement son homosexualité, a été assassiné. La communauté LGBT d'Afrique du Sud espère une enquête transparente et efficace, Joséphine Kluckner.
L'assassinat de Mohsin Hendrix occupait nombre d'esprits lors de la Gay Pride du Cap. C'est dans cette ville que l'imam, qui avait fait son coming out en 1996, dirigeait une fondation et une mosquée ouverte à tous les musulmans marginalisés. Certains des participants sont venus avec des pancartes affichant le portrait de l'imam et le hashtag « Justice pour Mohsin ». 2 semaines après son assassinat en plein jour, qui a choqué dans le monde entier, aucune arrestation n'a encore été faite dans ce que beaucoup suspectent être un crime de haine. Le président Cyril Ramaphosa lui-même a estimé fin février cela probable. La police n'a de son côté encore rien confirmé. Elle est appelée par les organisations de défense des personnes LGBTQI à mener une enquête transparente et sans délai, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque les victimes sont queer, dénonce-t-elle. L'Afrique du Sud est le pays le plus progressiste du continent en ce qui concerne la liberté d'orientation sexuelle et le seul à avoir légalisé le mariage gay dès 2006, ce qui n'empêche pas des discriminations et des préjugés persistants. Joséphine Kluckner, Johannesburg, RFI.
C'est une maladie qui avait suscité de graves inquiétudes inquiétude parmi la population et notamment les pêcheurs au Sénégal. En 2020 et 2021, des centaines d'entre eux avaient vu apparaître des boutons et des lésions sur leur corps après avoir pêché. Les mêmes symptômes ont été observés chez des pêcheurs en Guinée en 2023. Pendant 5 ans, le mystère était resté entier. Mais voilà que des scientifiques sont parvenus à mettre un nom sur le coupable, l'algue Vulcanodinium rugosum et une toxine qu'elle produit. Des ateliers sont maintenant organisés pour le faire savoir aux principaux intéressés. À Dakar, le reportage de Gwendal Lavina.
Ils sont une dizaine de pêcheurs et représentants de la profession près du port de Thiaroye, venus écouter Patrice Bremer, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Il a étudié pendant 4 ans cette maladie qui les a tous marqués.
D'après toutes ces recherches, qu'est-ce que vous avez trouvé sur ce mystérieux maladie ?
C'est une toxine qui est produite par une micro-algue qui est invisible à l'œil nu tellement elle est petite, mais qui existe en très grande quantité. Ce qu'on ne sait pas, c'est d'où est-ce qu'elle vient cette algue.
Les questions s'enchaînent pendant 2 heures, un échange très important pour Patrice Bremer.
Il faut parfois démystifier, hein, et ça sera dur, on ne pourra jamais convaincre tout le monde, mais il faut savoir expliciter toutes ces observations qui sont probantes, ces résultats qui sont probants, et essayer de les vulgariser au mieux.
Aliou, pêcheur venu de Fassboy à 150 km au nord de Dakar, a suivi attentivement les explications. En 2020, il a été touché par la maladie.
Je suis vraiment content de cette démarche et de ce que j'ai appris. Grâce à ça, la prochaine fois que je serai confronté à la maladie avec des collègues, eh bien nous serons mieux préparés et ce sera moins dangereux pour nous.
Pour sensibiliser le maximum de pêcheurs sur toute la côte, des vidéos en Wolof doivent être diffusées prochainement. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Il est 12h42 à Dakar.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, l'inquiétude des catholiques d'Afrique pour la santé du pape François, le ramadan vu des Comores et les sports du football en RDC, les équipes de l'Est à l'arrêt en raison de la guerre. Le Vatican a fait savoir ce matin que le pape François, hospitalisé dans un état stable à Rome pour une pneumonie des deux poumons, s'est bien reposé toute la nuit. Son pronostic toutefois reste réservé, notamment en raison de la complexité de son tableau clinique. Dans les églises du monde entier, des prières sont organisées pour sa santé. À Abidjan, le reportage d'Abdulaziz Diallo.
À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, des dizaines de fidèles assistent à l'ultime messe de ce dimanche. Dans leur prière, une intention revient avec insistance. La santé du pape François. Pour la 3e fois consécutive, le souverain pontife n'a pas célébré en public la traditionnelle prière de l'Angélus, un signe qui inquiète.
Mon mari m'a dit que le pape est malade. Ça m'a un peu cassé, ça m'inquiète. En tout cas, j'ai prié pour lui, pour que Dieu lui donne la guérison.
Un sentiment partagé par d'autres fidèles, comme Evelyne Yao, qui évoque le rôle central du pape pour l'Église catholique.
Il le représente beaucoup pour nous, les chrétiens catholiques. C'est non, papa. Franchement, c'est triste. Vu son état, malade, couché sur le lit d'hôpital, problème respiratoire, nous prions beaucoup pour lui aussi.
Face à cette inquiétude, le père Dogua Dapié, curé de la paroisse, exhorte les fidèles à garder la foi et à ne pas céder au découragement.
En Dieu, nous pouvons tout. Ce n'est pas tant le lieu de désespérer, mais de nous unir davantage dans la prière. Là où la science ne peut pas, Dieu peut toujours agir et permettre à ce que notre Saint-Père puisse retrouver sa vigueur d'antan.
Un message d'espérance en écho aux mots du pape François lui-même. Dans une lettre publiée hier, il remercie les fidèles du monde entier pour leurs prières et leur affection, affirmant qu'il se sent soutenu. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
C'est l'une des manifestations de la solidarité en ce mois de Ramadan. Les transferts d'argent en provenance de l'étranger aux Comores, ils représentent en temps normal déjà 21% du produit intérieur brut et ils se renforcent durant le mois de jeûne. À Moroni, le reportage d'Adalab Zembaba.
Le Ramadan rime avec générosité et solidarité et chaque année, la diaspora comorienne renforce ses envois d'argent vers le pays afin de permettre à leurs familles de faire face à des dépenses accrues. Chez la maison comorienne des transferts et valeurs, un des principaux acteurs du secteur, l'augmentation des transactions est bien visible. Manaïcha Mohamed, chargée de communication à MCTV, confirme cette tendance.
Comme tous les ans, pendant le mois de Ramadan, on constate une hausse importante des transactions. Je pense que c'est dû au fait que la population compte plus sur la diaspora pour se préparer à rentrer dans le mois de Ramadan. En période normale, les montants sont en moyenne de 100 euros et au mois de Ramadan, on arrive entre 150 et 200 euros.
Un responsable d'une agence concurrente confirme la tendance. À l'approche du Ramadan, les transferts ont grimpé de 59 à 135 millions de francs comoriens entre janvier et février. Dans un quartier animé de la capitale, Nasra vient de recevoir une aide précieuse de sa famille, une somme d'argent qui tombe à point nommé.
Cet argent m'est très utile, ça va m'aider à préparer, faire le stock, acheter les nécessaires pour subvenir aux besoins de la famille. Sans ça, on serait vraiment dans des difficultés parce qu'on ne saurait pas comment faire pour se gérer et préparer le Ramadan.
Au-delà des dépenses du quotidien, ces envois couvrent aussi d'autres événements et besoins majeurs. Abdallah Mzimbaba Mouroni, RFI.
Depuis plusieurs mois, le Maroc fait face à d'importantes pénuries de médicaments. C'est devenu un problème de santé publique majeur. Traitement contre le cancer, contre le diabète, contre l'hypertension. Des molécules indispensables aux malades sont parfois en rupture de stock, Mathias Reynal.
Au total, pas moins de 30 médicaments vitaux ont manqué l'année dernière au Maroc et la tendance n'est pas prête de s'inverser, d'après le docteur Tayeb Hamdi, vice-président de la Fédération nationale de la santé.
Ça concerne les antibiotiques, ça concerne des produits, des médicaments de cardiologie, de cancérologie, de neurologie, de psychiatrie. Aucun produit ne peut échapper à la pénurie un jour ou l'autre.
Même s'il produit entre 70 et 80% de sa consommation en médicaments, le Maroc reste fortement dépendant des importations et exposé aux fluctuations internationales, compliquant la gestion des stocks.
Il y a des spécificités pour le Maroc, c'est que c'est un marché pharmaceutique qui est étroit. Les laboratoires étrangers préfèrent traiter en priorité avec d'autres marchés qui sont économiquement plus intéressants.
Il existe des solutions néanmoins pour atténuer les pénuries.
Il faut encourager l'industrie nationale, l'industrie pharmaceutique nationale. Et surtout aussi, il faut communiquer avec les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, établissements de santé et autres. Mais également, il faut savoir gérer les pénuries. Donc, il faut qu'il y ait des stocks de médicaments.
Un autre défi auquel le Maroc doit faire face, la généralisation de la protection sociale qui va encore amplifier la demande en médicaments. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Les sports, retour en République démocratique du Congo. La guerre à l'Est a interrompu les activités de plusieurs équipes de football. C'est le cas notamment du FC Étoile de Kivu, dont 80% des joueurs sont coincés dans la ville de Kalemi, au sud du front, sur les rives du lac Tanganyika. Pascal Mangala.
La priorité pour le gardien de but, Ntela Merfi, 20 ans à peine, reste de retrouver sa famille après plus de 2 mois.
Dans le moment tellement comme cela, je suis père de famille, j'ai ma petite fille, elle a besoin de moi. Ce que je demande, c'est de rentrer chez moi.
C'est aussi le cas de Seb Capella, défenseur axial du FC Étoile du Kivu.
Ce qui se passe ici, vraiment, je supporte pas. Donc j'ai vraiment besoin de rentrer chez moi à la maison, voir ma famille.
Et ils sont 26 au total à se retrouver dans une situation précaire à Kalemie, où ils ont trouvé refuge depuis le 18 février dernier, après avoir enduré et franchi multiples obstacles sur leur chemin. Eli Bombanza, 24 ans, est milieu offensif du club de Bukavu.
Avant que le pire ne puisse arriver, nous avons pris l'initiative de quitter Bukavu. Nous avons parcouru 22 kilomètres de marche pour quitter Nyangezi jusqu'à Kamanyola. Nous avons rencontré de Wazalendo, de Fardessé. Nous avons été fouillés à chaque barrière. C'était vraiment stressant et tout. Et la situation est vraiment pénible.
Pour joindre Kinshasa, où 80% de l'effectif est originaire, il leur faut au minimum 11 000 $ américains. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
Il est 14h48 à Lubumbashi. 13h48 à Paris, Anne Cantner, les grands titres de ce lundi 3 mars.
L'Allemagne appelle Israël à lever immédiatement les entraves à l'aide humanitaire à Gaza, aide bloquée depuis hier. Israël dit ce matin avoir frappé un navire qui enfreignait les restrictions au large de la ville de Khan Younes. Le pays a aussi mené des bombardements malgré le cessez-le-feu conclu avec le Hamas. Dans le nord d'Israël, une attaque au couteau a fait un mort et quatre blessés à Haïfa. Le Hamas a salué cet attentat sans le revendiquer. Il faut que quelqu'un force Volodymyr Zelensky à faire la paix, déclaration du porte-parole du Kremlin ce matin, qui fait porter au président ukrainien la responsabilité de la brutale altercation avec Donald Trump à la Maison-Blanche en fin de semaine dernière. Nouveau recul de l'Union européenne en matière de protection de l'environnement. La présidente de la Commission vient d'annoncer une souplesse pour éviter les amendes sur les émissions de CO2 cette année. Et puis la fusée Ariane 6 en dernière ligne droite avant son décollage prévu tout à l'heure à 16h24 temps universel. Premier vol commercial avec un satellite militaire pour le lanceur européen.
La Cour pénale internationale est prête à soutenir la création d'un tribunal spécial pour juger tous les crimes commis au Congo depuis 30 ans. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière Karim Khan, le procureur de la CPI, lors d'un déplacement à Kinshasa. Même si ce tribunal voit le jour cette année, comme semble le souhaiter le président Tshisekedi, ne risque-t-il pas d'être instrumentalisé? Il y a 3 ans, le cinéaste belge Thierry Michel a réalisé le film choc « L'Empire du silence » consacré à l'impunité en RDC. Aujourd'hui, il est l'invité de Christophe Boisbouvier.
Thierry Michel, bonjour.
Bonjour.
La justice internationale n'a pas permis d'arrêter 3 décennies d'atrocités au Congo, a reconnu le procureur de la CPI, c'était la semaine dernière à Kinshasa. Pourquoi cet aveu ?
Est-ce qu'elle a essayé, à part quelques petits poissons qui ont été jugés devant la CPI, ils sont 3 dans les années 2010-2020, je ne vois pas beaucoup de poursuites qui ont été engagées, et jamais sur les hautes personnalités des commandements militaires ou politiques, que ce soit du Congo, de l'Ouganda ou du Rwanda. Donc je pense extrêmement important aujourd'hui de remettre sur la table cette question de la justice transitionnelle pour laquelle se bat le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix depuis déjà pas mal d'années de par le monde.
Et la nouveauté, la semaine dernière, c'est que lors de ce déplacement à Kinshasa, Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, a soutenu l'idée d'un tribunal spécial pour les crimes commis au Congo.
Oui, ce qui est important, c'est qu'il a dit qu'aucune partie du conflit n'a un chèque en blanc pour les crimes les plus graves relevant du statut de Rome. Aucune partie du conflit, ça veut bien dire que ce ne sera pas une justice de Congolais envers les Congolais, mais que ça va toucher évidemment tous les acteurs des crimes commis depuis 30 ans, dont évidemment les pays voisins et les responsables des pays voisins. Alors la question évidemment est de voir si on va remonter les chaînes de commandement politique et militaire. Mais que je sache, le procureur de la CPI, Karim Khan, n'a pas froid aux yeux, puisqu'il a osé s'en prendre à M. Poutine et M. Netanyahou en Israël. Donc peut-être qu'il n'aura pas de scrupules à s'en prendre aussi à ceux qui ont été responsables des guerres en RDC.
Et pour ce futur tribunal spécial, Karim Khan dit qu'il faut une approche globale qui nécessite un mandat avec plus de moyens, s'occupant de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Ça me semble, dans le principe, très bien. On a déjà des bases de travail. Le premier rapport mapping, mais évidemment, il se termine en 2002, il ne couvre que 10 ans. Il faut évidemment compléter par un deuxième rapport mapping, me semble-t-il, qui devrait couvrir au moins 20 années. Mais ce qui est rassurant, c'est que le Conseil des droits de l'homme va envoyer une commission d'enquête internationale qui devra fixer les responsabilités. Mais il faut évidemment aujourd'hui veiller à sécuriser les témoins, sécuriser aussi, je pense, les fosses communes, parce que là, il y aura un travail aussi si important, comme ça a été fait dans d'autres pays, d'exhumation des corps pour identification, comment ils étaient assassinés et par qui, à quel moment, bien sûr. Et avec le risque, évidemment, si ce n'est que congolais, même avec des experts étrangers, mais si ça ne reste qu'au niveau congolais, il y a évidemment le risque d'instrumentalisation politique ou bien d'éviter certaines responsabilités de certains acteurs de ces crimes qui sont toujours aujourd'hui quand même dans des postes de pouvoir militaire ou politique.
Alors, grâce à ce rapport mapping de 2010, on sait ce qui s'est passé, mais on ne connaît pas l'identité des criminels. Pourquoi ?
Mais quand même, on ne les connaît pas, on ne veut pas les connaître. Puisque,
officiellement, en tout cas.
Je veux dire, c'est ce dont le docteur Mukwege a dit avec beaucoup de pertinence lors de son discours à Oslo quand il a reçu le prix Nobel. Ces personnes dont on ose et on ne veut pas dire le nom, n'empêche, ils sont quand même dans plusieurs rapports des Nations Unies. Et je vous rappelle que dans le film L'Empire du silence, que j'ai réalisé sur 25 années de tragédie congolaise, en allant dans toutes les régions, région où se sont passés ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre et ces massacres abominables. Voilà, on a quand même pu repérer par les témoignages que j'ai récoltés et établir que certains étaient des présumés coupables vraiment extrêmement sérieux qui auraient dû être poursuivis. En tout cas, ils n'ont pas été inquiétés le moins du monde.
Dans votre film « L'Empire du silence » qui est sorti il y a 3 ans, vous identifiez notamment 2 présumés coupables qui sont des officiers congolais, le général Tango Faure et le général Ruori Mbere. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ?
Que je sache, ils n'ont pas été vraiment inquiétés. Donc, ils sont aussi dans ce cycle d'impunité parce que d'un côté, il y a l'Empire du silence qui commence à être brisé. C'est au crédit de M. Kahn de briser cet Empire du silence. Mais il y a l'Empire de l'impunité et ça, c'est un iceberg invraisemblable, une montagne à gravir, parce que c'est la culture dominante depuis tellement longtemps, depuis plusieurs décennies, politique.
Dans votre film, vous mettez en cause également le général rwandais James Kabarebe. Or, il se trouve que le 20 février dernier, les États-Unis ont annoncé des sanctions financières contre lui, car il s'agit, selon Washington, d'une personnalité politique et militaire de premier plan qui a joué un rôle essentiel dans les conflits au Congo ces 3 dernières décennies.
Eh bien, voilà ce qui confirme les témoignages que j'ai pu récolté sur le terrain et dont on n'avait jusqu'ici pas vraiment tenu compte. Donc c'est une avancée. Enfin, on brise ce cycle du silence et des noms commencent à être mis en exergue comme présumés criminels.
En avril, dans 2 mois donc, devrait être organisée à Kinshasa, par le président Tshisekedi, une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice, où pourrait être discutée la création de ce tribunal spécial pour le Congo. Est-ce pour vous l'aboutissement d'un combat que vous menez depuis longtemps ?
Quelque part, oui. C'était en tout cas une des revendications du docteur Mukwege. Maintenant, il faut voir jusqu'où on pourra aller. Et si ce ne sera pas instrumentalisé, il ne faut pas que ce soit seulement un outil politique contre le Rwanda, même si, évidemment, il faut dénoncer les crimes commis par le Rwanda et l'occupation actuelle, sans tergiversation. Mais voilà, il y a des responsabilités internes au Congo. Il faudra évidemment qu'elles soient mises en exergue.
Thierry Michel, merci.
Thierry Michel, grand invité Afrique de RFI, entretien retrouvé en intégralité sur le www.rfi.fr. Les Ghanéens la surnomment la reine du frafra gospel. Florence Adoni sort son nouvel album An Ordinary Exercise in Unity, un simple exercice d'unité. Célébration de la musique dans toutes ses dimensions et véritable patchwork d'influences diverses, publié par le label allemand Philophone Records. Olivier Roger l'a écouté.
La spiritualité du gospel, les phrasés du high life, l'énergie des musiques électroniques, il y a tout cela dans le dernier album de Florence Adoni. Celle qui a commencé dans une chorale d'église à Kumasi, chantant les louanges de Dieu sur les rythmes du peuple frafra, avant de devenir une star au Ghana en 2011, vogue depuis vers d'autres cieux musicaux. Sa rencontre avec le batteur et producteur allemand Max Weissenfeld propulse la Ghanéenne dans un bain énergisant où sa musique prend des colorations européennes. Florence Adoni n'a cependant pas oublié qu'elle partageait autrefois le micro avec Guy Wan, l'un des Kologo Heroes du Ghana. Le Kologo, cet instrument à 2 cordes, choyé par les frafras. Elle n'a pas non plus oublié le High Life de Kumasi, sa ville natale. Ce High Life qui est omniprésent dans ses compositions et qui empêche impérativement toute tentative de laisser les jambes au repos.
C'est avec Florence Adoni, la reine du frafra, que se termine cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond, et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous sur RFI. On se retrouve dans une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Demain.
Question éthique et reproduction, faut-il poser des limites dans la lutte contre l'infertilité ?
Mercredi.
Nous vous retrouvons au Sénégal, en Casamance, à la rencontre des acteurs de la communauté engagés pour la santé des enfants en situation de handicap.
Priorité santé
avec Sounou Assurance.
Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU sur RFI.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.